Vous écoutez, on lit pour vous.
La SQDC n'est pas la bienvenue partout. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 2 juillet 2025 dans la presse. La Société québécoise du cannabis SQDC soufflera cet automne ses 7 bougies. Bien qu'elle ait su s'imposer dans le paysage avec l'ouverture de plus d'une centaine de succursales, la société d'État demeure persona non grata à certains endroits. Les magasins de la SQDC ont évolué depuis les premières versions qui remontent à octobre 2018. Au cours de la dernière année, la société d'État a voulu sortir de son modèle de succursale conventionnelle caractérisé par un long comptoir derrière lequel se tiennent les employés et les étagères de produits. Air ouverte, circulation libre et petites succursales font désormais partie des plans. Bien qu'elle ait modernisé son image, la SQDC se bute encore à de la résistance dans certaines villes ou municipalités. Ce sont elles qui délivrent les permis permettant à une succursale d'ouvrir. C'est clair que lorsqu'on envisage l'arrivée d'une SQDC dans un secteur, ce n'est pas toujours bien compris à la fois par les autorités compétentes et parfois aussi par les locataires, reconnaît Alexander Pauve, directeur de l'immobilier à la SQDC. Donc, encore à ce jour, on a vraiment un grand travail de sensibilisation à faire pour faire comprendre notre mission. J'ai vraiment l'impression que c'est une incompréhension de la mission de l'entreprise et même de l'industrie. Pour préserver ses relations avec les différentes autorités municipales et pour ne pas nuire aux négociations, M. Beauve n'a pas voulu commenter de cas en particulier. Il y a certains endroits où on est bien reçu, donc bien accueilli, ajoute-t-il. Il y a d'autres municipalités qui sont réticentes à nous accueillir. On est prêt à faire face à tout. On est prêt à travailler avec ces parties prenantes-là, peu importe leur vision ou leur perception de la SQDC. En plus de devoir se conformer à des règles concernant la distance à respecter entre un magasin et un établissement d'enseignement, au moins 150 mètres à Montréal, 250 mètres ailleurs au Québec, la Société d'État cherche, lorsque c'est possible, à s'installer dans un pôle commercial. Pour un commerce de détail, la localisation est très importante, soutient Alexander Beauve. Donc, pour nous également, on veut être dans un endroit qui est très visible, un pôle commercial où il y a beaucoup de trafic. Il faut qu'on soit accessible pour les consommateurs. Projet avorté. Mais ces critères font parfois en sorte que les projets ne peuvent se réaliser. En 2024, la ville de Saguenay a refusé que la SQDC déménage sa succursale dans la rue Racine, une artère commerciale importante de l'arrondissement de Chicoutimi. Lors de la réunion du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, plusieurs commerçants sont venus témoigner et ont partagé leurs préoccupations, notamment quant à l'achalandage important que la succursale pourrait engendrer et au manque de place de stationnement, peut-on lire dans un article publié sur le site de Radio-Canada le 18 juin 2024. Selon le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement consulté par la presse, la demande d'autorisation de déménagement a été refusée par la majorité. Seule une conseillère s'y est dite favorable. La proximité d'un parc, d'une bibliothèque et des bureaux du centre de services scolaires des rives du Saguenay faisait également partie des arguments pour s'opposer au projet. Dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal, la SQDC n'a pu ouvrir en 2022 une succursale sur l'avenue Van Horn, en face de la station de métro Outremont. Cette mesure était appuyée par une pétition signée par plus de 2000 personnes, a rappelé par courriel Amélie Clich, directrice de cabinet à la mairie d'Outremont. Les arguments étaient qu'il y avait des écoles à proximité et déjà 4 SQDC dans un rayon de 1,5 km et que la SQDC promettait la livraison de leurs produits le jour même. Depuis, aucune autre démarche n'a été entreprise pour l'implantation d'une succursale ailleurs sur le territoire d'Outremont, ont confirmé l'arrondissement et la Société d'État. L'exemple heureux de Donnacona. Parfois, l'histoire se termine bien pour la SQDC, a tenu à préciser Alexander Bove. Il cite le cas de Donnacona, ville située dans la MRC de Portneuf, près de Québec, où on a ouvert une SQDC l'été dernier. Le maire nous a demandé si c'était possible de venir passer un moment avec nous en succursale pour expliquer davantage la mission de la SQDC. Et il y a une publication qui a été faite sur les réseaux sociaux pour immortaliser ce moment-là. Habituellement, les démarches menant à l'ouverture d'une succursale prennent un an si tout se passe bien. La SQDC, en bref. Présidente et chef de la direction, Suzanne Bergeron. Ouverture des premières succursales, octobre 2018. Nombre de succursales, 106, 107 avec celle du Vieux-Montréal qui ouvrira le 7 juillet. Nombre de produits en succursale, entre 400 et 450, plus de 800 en ligne. Nombre total d'employés, 1292, magasins et sièges sociaux. Quantité de cannabis vendu, 149,2 tonnes, 2024-2025. C'était « La SQDC n'est pas la bienvenue partout », un texte de Nathaël Morissette, paru le 2 juillet 2025 dans la presse.
Bienvenue sur Deux roues, un texte de Jean-François Réau, paru le 9 juin 2025 dans la presse. Que ce soit au débarquement de Normandie ou après le passage de Sandy, le vélo a maintes fois prouvé sa remarquable résilience. Et c'est parfois en l'enfourchant par nécessité qu'on l'adopte, croit l'auteur. J'ai commencé à faire du vélo pour me déplacer à Montréal en novembre 2003. Vous me direz, drôle de moment pour se mettre au vélo. Ce n'était pas un choix. Je venais de perdre mon moyen de transport pour me rendre à l'université en raison d'un conflit de travail entre les employés et la direction de la STM. Par nécessité, j'ai enfourché mon vélo de montagne. Et par hasard, j'ai découvert que le vélo pouvait être rapide, pratique et même agréable. Ce n'est pas d'hier que le vélo démontre sa résilience. Un collègue me rappelait récemment qu'il a été utilisé lors du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, compagnon silencieux des troupes au cœur de la libération. J'ai un ami qui roule encore aujourd'hui sur un vieux vélo militaire suédois, robuste et parfaitement fonctionnel. Évidemment, la situation actuelle est bien différente, mais ces récits montrent que le vélo est capable de durer, de traverser les crises et de s'adapter. En octobre 2012, lorsque l'ouragan Sandy a paralysé une grande partie du réseau de métro de New York, le vélo est devenu un outil vital. Avec plusieurs tunnels inondés et les trains à l'arrêt pendant des jours, des milliers de New-Yorkais ont repris leur vélo. Mais plus encore, des brigades cyclistes se sont organisées spontanément pour ravitailler les quartiers isolés, transporter des médicaments et maintenir les liens. Certains cyclistes ont même utilisé leur vélo pour générer de l'électricité et recharger des téléphones. Dans une ville en crise, le vélo n'était pas seulement un plan B. il était devenu une infrastructure de résilience en soi. En décembre 2019 à Paris, une grève prolongée dans les transports publics a permis à une partie de la population de redécouvrir le vélo comme un mode de transport fiable et rapide. Ce contexte de contraintes a accéléré son intégration dans l'espace public. À l'heure de pointe, certaines artères ont vu circuler deux fois plus de vélos que de voitures. Depuis, le vélo est entré dans le quotidien de centaines de milliers de Parisiennes et Parisiens. Les multiples fonctions des pistes cyclables. Même à Montréal, l'hiver dernier, les pistes cyclables ont illustré leur rôle multifonctionnel. Pendant une dizaine de jours, elles ont temporairement servi de zone de stockage de neige après deux tempêtes consécutives. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes infrastructures qui permettront à des dizaines de milliers de personnes de continuer à se déplacer malgré les perturbations. Face à une grève que personne ne souhaitait, il est bon de se rappeler que le vélo peut contribuer à maintenir une certaine mobilité dans la ville. Il ne remplace pas le transport collectif, qui demeure un pilier fondamental de l'équité sociale, de la lutte contre les changements climatiques et de la vie urbaine. Il le complète. Il est préoccupant que le transport collectif ne soit toujours pas reconnu comme un service essentiel au sens de la loi. Ne pas lui accorder ce statut, c'est ignorer son rôle structurant dans la vie de la métropole. C'est un échec collectif qu'il nous faut nommer. Mais si cette situation de crise pousse certaines personnes à essayer le vélo pour la première fois, comme ce fut mon cas il y a 22 ans, alors accueillons-les avec bienveillance. Que leur expérience soit temporaire ou qu'elle se prolonge, bienvenue sur deux roues. Vous venez de découvrir un outil de liberté et de résilience. C'était Bienvenue sur deux roues, un texte de Jean-François Réau, paru le 9 juin 2025 dans La Presse.
Je suis le vrai François Legault. Un texte de Mathieu Carbas, paru le 24 juillet 2025 dans Le Devoir. Bonjour, j'aimerais réserver une table pour ce soir. Oui, bien sûr. À quel nom? François Legault. Quand il allait au restaurant pendant la pandémie, François Legault avait souvent droit à la meilleure table, parfois même à un petit shooter offert par le patron. La popularité du premier ministre tutoyait des sommets, alors les petites attentions à son endroit n'étaient pas rares, surtout au restaurant, où, en pleine crise sanitaire, on devait laisser son nom avant de pouvoir s'installer. En ces circonstances, porter le même nom que le premier ministre du Québec, c'était un peu comme bénéficier en permanence d'une carte VIP. Il y a aussi des contraventions que j'ai évitées parce que je m'appelle François Legault, confie en rigolant l'homme de 62 ans qui dirige une agence d'artistes. C'est qu'à la différence de son entourage, qui trouve ça un peu choquant, ses avantages et autres petits passe-droits, il les a toujours accueillis avec une pointe d'humour. Disons que j'ai eu des petits privilèges, reconnaît-il aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. François se souvient aussi de ses nombreux coups de téléphone reçus pendant la crise sanitaire, notamment celui d'un vieil homme qui ne pouvait plus jouer ses numéros à la loterie en raison du confinement. Ça faisait 40 ans qu'il jouait les mêmes numéros, et là, il ne pouvait plus jouer. Alors, il appelait directement François Legault pour lui demander de régler son problème. Ça m'a vraiment touchée. Il faut dire que, quand on s'appelle François Legault, les gens vous parlent un peu comme s'ils savaient en face d'eux le premier ministre, sans filtre. C'est comme si les gens ne faisaient pas la différence entre les deux, explique encore François. Le fait de porter ce nom lui permet ainsi de connaître la réalité des hommes et des femmes politiques, exposés aux ressentis de la population dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai même reçu dernièrement une lettre d'un Américain me disant qu'il nous aimait, les Québécois, mais qu'il était d'accord sur le fait que Donald Trump veuille faire du Canada le 51e État américain. Un baromètre politique. Aujourd'hui, les avantages et autres petits passe-droits se font plus rares quand on s'appelle François Legault. Car depuis les années pandémiques, le vent a tourné et la cote d'amour du premier ministre s'est quelque peu érodée. Quand on porte le même nom, on le mesure tous les jours. Car s'appeler François Legault, quand on n'est pas le François Legault, c'est être, d'une certaine manière, le premier témoin de la popularité du premier ministre, une sorte de baromètre politique. Dès que l'on donne son nom, on suscite inévitablement une réaction, bonne ou mauvaise, mais toujours une réaction. Parmi la demi-douzaine de François Legault avec lesquels le devoir s'est entretenu, tous, des hommes blancs, âgés de 57 à 65 ans, nous l'ont dit. C'est le cas, par exemple, de celui qui travaille dans le milieu de la santé et qui a dû parfois essuyer des remarques. Il préfère d'ailleurs rester anonyme pour éviter que ça nuise à ses activités professionnelles. Afin de préserver son anonymat, nous l'appellerons François Legault. Il y en a un autre de 59 ans qui travaille au service des technologies de l'information de Radio-Canada. Au début de la pandémie, nous confie-t-il, on lui a transféré un appel d'une dame âgée après une conférence de presse télévisée. Elle n'était pas contente. Comme les autres, lui aussi dit ressentir la perte de popularité du premier ministre. Et il prend soin, par exemple, d'aviser le personnel de l'hôpital de ne pas dire son nom trop fort au triage. Ils comprennent très bien pourquoi. D'ailleurs, jamais avare de plaisanteries, il en rit parfois avec ses amis. En fonction de ce qui se passe dans les médias ou lorsque lui ou son équipe de la CAQ disent des niaiseries, je plaisante en disant des choses comme « c'est difficile des fois ». Je me suis rendu compte avec le temps que je pourrais être son grand conseiller qui lui dirait « oh là, tu es très populaire, tu es très aimé » ou au contraire « tu es moins aimé, c'est ainsi ». L'attitude des gens change beaucoup en fonction de ses politiques et de ce qu'il dit à la télé, résume de son côté François Legault de l'agence artistique du même nom. Tanné du troisième lien. Pour François Legault, un ancien avocat retraité aujourd'hui, installé en Estrie, il n'y a pas une journée où il ne se fait pas agacer avec sa célèbre identité. Alors, il a prévu une réponse toute faite. Au début, je ne savais pas trop quoi dire. Mais à un moment donné, j'ai décidé de couper court à toutes sortes d'observations. J'ai commencé à répondre « Je suis le vrai François Legault ». D'ailleurs, il confie au devoir qu'il ne tenait pas vraiment à ce que François Legault soit élu en 2018. Non pas pour des raisons politiques, mais plutôt parce qu'il savait qu'il se ferait certainement apostropher, que plus rien ne serait comme avant. Et si, au début, les échanges à propos du premier ministre étaient plutôt positifs, il constate désormais, lui aussi, que la cote de popularité du premier ministre est en berne. Il y a eu des périodes où les gens étaient satisfaits. Là, on est dans une période où les gens sont nettement insatisfaits. Dès que je rencontre des gens, ils me disent « On est tanné du troisième lien » ou « L'hôpital Maisonneuve, ça va pas du tout », etc. Alors, ils les laissent vider le sac de leurs doléances, leur répondant simplement qu'il ne peut pas faire grand-chose contre ça. Ils s'amusent aussi de voir transparaître les allégeances politiques des gens qu'ils rencontrent. Et comme tous ses semblables avec lesquels s'est entretenu le devoir, François Legault nous confie ne pas avoir voté pour François Legault, ni en 2018, ni en 2022. C'était « Je suis le vrai François Legault », un texte de Mathieu Carbas, paru le 24 juillet 2025 dans Le Devoir.
De jeunes Nunavummiut recherchés pour un emploi d'été. Un texte de Karine Lavoie, paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie. Le programme Emploi d'été Canada vise à offrir aux jeunes, particulièrement à ceux qui sont confrontés à des obstacles, des occasions d'acquérir des compétences et de les approfondir. Actuellement, près de 70 postes sont affichés pour les Nunavummiut sur le site web du Guichet Emploi et d'autres opportunités pourraient s'ajouter à mesure que du financement est disponible. Financé par Emploi et Développement social Canada, EDSC, ce programme vise à offrir des emplois estivaux aux jeunes de 15 à 30 ans qui peuvent avoir du mal à trouver un travail, notamment les personnes de la nation Inuit et des collectivités éloignées. L'initiative prévoit des subventions salariales pour les employeurs d'organismes sans but lucratif et du secteur public, de même que pour les organisations privées comptant 50 employés à temps plein ou moins. Samuel Charbonneau, du Bureau des relations avec les médias pour EDSC, souligne que pour certains, Emploi d'été Canada représente une première expérience sur le marché du travail qui les guide vers une formation, des études futures ou vers un choix de carrière. Une situation gagnant-gagnant. Du 19 novembre 2024 au 19 décembre 2024, les employeurs au Nunavut et partout au Canada ont été invités à présenter une demande de financement afin de créer des occasions d'emploi estivales. Les organismes à but non lucratif peuvent recevoir une contribution pouvant aller jusqu'à 100 % du salaire horaire minimum adulte en vigueur dans la province ou le territoire et toutes les charges sociales obligatoires liées à l'emploi, CSE, qui y sont associées. Les employeurs des secteurs publics et privés sont admissibles à une contribution pouvant atteindre jusqu'à 50 % du salaire horaire minimum en vigueur dans la province ou le territoire, peut-on lire dans le guide du demandeur Emploi d'été Canada 2025. Les offres proposées doivent être à temps plein pour une durée de 6 à 16 semaines. Toutefois, certains employeurs ont l'intention de garder les jeunes comme employés après la fin du placement, souligne Samuel Carbonneau. Une évaluation de 2024 d'Emploi d'été Canada révèle que les personnes qui occupent un poste offert dans le cadre du programme ont des résultats supérieurs sur le plan de l'emploi, dépendent moins de l'aide aux revenus et ont de meilleures perspectives à long terme sur le marché du travail. Toujours selon la porte-parole d'EDSC, les employeurs ressortent également gagnants grâce à un bassin de jeunes travailleurs motivés qui ont de nouvelles idées et perspectives. Les jeunes s'adaptent souvent rapidement aux changements. Investir dans les jeunes travailleurs peut entraîner une loyauté à long terme dont bénéficiera l'organisme au bout du compte, ajoute Samuel Carbonneau. Cette année marque la première fois qu'une demande est acceptée au Nunavut pour la Fondation Glocal du Canada, une organisation qui vise à créer une société plus informée, engagée et inclusive en renforçant la résilience des jeunes et en luttant contre la désinformation. La Fondation, qui est à la recherche de 5 agents de développement communautaire, estime qu'au-delà d'une subvention salariale, Ce programme représente une occasion unique de mettre en relation les jeunes Canadiens avec des rôles porteurs dans l'amélioration des conditions de vie d'une communauté, la sensibilisation politique et le service public. Jia Yu-wei, directrice de recherche à la Fondation Glocal du Canada, est d'avis que l'embauche de personnes âgées de 15 à 30 ans présente de nombreux avantages. Nous considérons les jeunes non seulement comme les leaders de demain, mais aussi comme des acteurs clés de l'innovation civique d'aujourd'hui. Ils apportent un regard neuf, une grande aisance numérique et un lien étroit avec leur communauté locale, dit-elle. Les emplois offerts aux Nunavummiut comprennent notamment des manœuvres pour la municipalité de Baker Lake, des guides de plein air à Resolute, ainsi que des charpentiers et des spécialistes en médias sociaux à Iqaluit. Malgré les avantages que génère la participation au programme Emploi d'été Canada, EDSC souligne que le nombre de demandes d'employeurs du Nunavut demeure faible comparativement aux autres régions du pays. Des obstacles à franchir. Jia Yu-wei souligne qu'à l'instar de nombreuses organisations à but non lucratif opérant dans des régions éloignées ou mal desservies, le défi de leur organisation ne réside pas dans un manque d'intérêt des jeunes Nunavummiut, mais bien au niveau de la stabilité du financement. La Fondation travaille d'ailleurs actuellement à créer des partenariats avec des institutions territoriales et fédérales pour renforcer leur impact au Nunavut. Cela dit, nous sommes fiers que bon nombre de jeunes restent engagés après leur contrat. Certains deviennent mentors, d'autres leaders régionaux ou employés à temps plein. Samuel Carbonneau croit pour sa part que les jeunes des communautés éloignées sont confrontés à des défis uniques dans leur recherche d'emploi. Les transports limités font en sorte qu'il est difficile de se rendre jusqu'à l'emploi disponible. En outre, il y a moins d'occasions d'emploi et de soutien à la formation, ce qui s'ajoute à cette difficulté. Pour bien des jeunes des régions éloignées, un accès limité à Internet réduit encore davantage l'accès à l'information concernant les emplois disponibles. Des données fournies par Statistique Canada indiquent que le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans au Nunavut était de 16,4% en 2024, alors que la moyenne canadienne se situait à 14,5% pour la même période. C'était « De jeunes Nunavummiut recherchés pour un emploi d'été », un texte de Karine Lavoie, paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie.